Laudetur Jesus Christus.
Transparence et collaboration dans la distribution du vaccin anti-Covid, le Vatican rappelle à l'ordre contre des éventuelles injustices ou concurrences dans les campagnes de vaccination en cours dans le monde. Vous entendrez le président de l'Académie pontificale pour la vie, Monseigneur Vincenzo Paglia, dès le début de ce journal. Le Covid qui inquiète les autorités allemandes, le pays a identifié le premier variant brésilien du virus sur son sol. Nous irons à Berlin. Avant de partir pour Athènes, retrouvez notre correspondante qui nous expliquera les hostilités croissantes entre la presse et le gouvernement grec à la suite de la présentation d'un plan d'encadrement des manifestations qui déplaît aux journalistes. Et on reste en Europe dans notre dossier, détour par le Portugal qui vote pour sa présidentielle demain. Confiné depuis une semaine, le pays redoute une abstention record. L'issue du scrutin ne réserve de toute façon que peu de surprises. Le président sortant affiche une popularité désarçonnante. Nous tenterons de l'expliquer. Entretien à suivre.
Radio Vatican, le journal. Delphine Allaire.
Bonjour à tous. Le Vatican précise et renouvelle ses appels à une vaccination anti-Covid équitable. Dans une note publiée hier, l'Académie pontificale pour la vie réaffirme avec force l'urgence d'identifier des manières de garantir transparence et collaboration. Son président, Monseigneur Vincenzo Paglia, déplore trop de concurrence et le risque d'une grande injustice dans ses campagnes de vaccination. Il exhorte gouvernements et institutions internationales à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs d'accessibilité universelle.
De plupart dans le monde sont arrivés à l'Académie pontificale pour la vie des réels cris à propos de l'insuffisance des vaccins, par exemple de la part des responsables des associations médicales de l'Afrique. Et la nécessité alors d'une distribution plus large et d'une production qui soit plus vite et nécessite avec une urgence particulière aussi pour la raison de la multiplication des variations du virus. Et dans ce sens, alors, c'est nécessaire une sorte de nouveau pacte pour donner à tout le monde la possibilité de se vacciner. Jusqu'ici, les pays plus riches ont la possibilité de le faire, mais il y a encore des milliards de hommes qui nécessitent de cette aide. C'est pour ça que ce cri, c'est une sorte de prière aussi pour que un esprit de solidarité puisse s'élargir dans tous les responsables.
Des propos recueillis par Gabriella Cerazzo de la rédaction italienne de Radio Vatican et toutes les informations sur la position du Saint-Siège sur les vaccins à retrouver bien sûr sur vaticannews.va. Au chapitre du Covid-19, hier, les déclarations du Premier ministre britannique ont fait grand bruit. Selon Boris Johnson, le fameux variant britannique, en dehors d'une contagiosité plus forte, peut aussi être plus mortel. Tandis qu'en Europe, la Belgique est devenue hier le premier État européen à interdire sa population de voyager hors des frontières du royaume. Le Covid et ses conséquences donc qui bouleversent en profondeur les modes de vie depuis presque un an maintenant. Ce samedi marque en effet le premier anniversaire du confinement de Wuhan, fameux épicentre originel du virus, alors encore mystérieux il y a un an. Un an plus tard, rien ne rappelle cette ambiance apocalyptique, en tout cas sur place, car tout a rouvert, boîte de nuit y compris. L'ambiance est bien sûr tout autre en Europe. En Allemagne, la souche brésilienne du Covid-19 a été repérée pour la première fois. Particulièrement contagieux, ce variant inquiète les autorités allemandes qui disent s'attendre à des mois encore difficiles. Le point tout de suite à Berlin, Delphine Nerbollier.
C'est sur un voyageur de retour du Brésil jeudi que le nouveau variant a été repéré à Francfort. Aucune information n'a été fournie, si ce n'est que le patient ne présente aucun symptôme particulier. La découverte de cette souche brésilienne intervient une semaine après la découverte du variant sud-africain, également à Francfort, et du variant britannique un peu plus tôt en janvier. Ces trois souches très contagieuses du virus sont donc désormais présentes en Allemagne et cela inquiète les autorités qui ont prolongé et même renforcé le confinement cette semaine. Surtout, ne pas baisser les bras, c'est ce que rappellent les autorités, alors que les premiers effets du confinement se font sentir. Le nombre des infections diminue et se stabilise depuis le 10 janvier. Le nombre de patients en service de soins intensifs recule lui aussi. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a le nombre de morts très élevé, un millier en moyenne par jour. Au total, 50 000 personnes infectées par le Covid ont perdu la vie. Les autorités appellent donc les Allemands à ne pas relâcher leurs efforts. Selon elles, les prochaines semaines pourraient être les plus dures de la pandémie. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
La question libyenne, objet de pourparlers ouvert hier au Maroc, représentant du Parlement basé à Tobrouk dans l'Est libyen et du Haut Conseil d'État basé à Tripoli, se sont rencontrés sous égide marocaine donc. Un timide pas de plus pour sortir la Libye de son chaos politico-militaire. Lors d'une réunion en Égypte déjà mercredi, ces deux mêmes camps avaient décidé d'organiser un référendum sur la Constitution avant les élections. Aux États-Unis, le président Joe Biden s'attaque à un phénomène qui a pris une ampleur considérable ces derniers mois, la crise alimentaire. En raison des difficultés économiques provoquées par la pandémie, des millions de foyers américains sont en effet actuellement tenaillés par la faim. Les deux décrets pris hier par le nouveau président vont donc leur apporter, Adélaïde Patrignani, un coup de pouce bienvenu.
En effet, Delphine, le premier décret permettra l'assouplissement du programme d'assistance aux personnes et familles à faible ou aucun revenu. En clair, l'aide alimentaire devrait augmenter de 15%. Elle offre actuellement jusqu'à 5,70 dollars par jour et par enfant scolarisé. Le second décret va quant à lui améliorer les droits sociaux des employés fédéraux avec la garantie d'un salaire minimum de 15 dollars de l'heure et d'un congé d'urgence payé. D'après le Conseil national économique de la Maison-Blanche, le gouvernement fédéral veut devenir un employeur modèle, mais il reconnaît que ces mesures concrètes seront insuffisantes à résoudre la crise alimentaire. D'où la nécessité d'un plan de sauvetage de l'économie américaine. Avec la pandémie de Covid-19, l'insécurité alimentaire a explosé dans le pays le plus riche du monde. Près de 30 millions d'Américains souffrent de ne pas avoir assez à manger. Au total, un foyer sur sept ou encore 12 millions d'enfants. Les communautés noires, latinos et indigènes sont les premières touchées. Par rapport à l'année dernière, ces chiffres ont triplé et les premiers organismes à le ressentir sont les banques alimentaires. Elles sont tout simplement débordées. Selon la principale ONG caritative du pays Feeding America, il pourrait manquer près de 9 milliards de repas d'urgence en 2021.
Merci beaucoup Adélaïde Patrignani. Aux États-Unis, une échéance de taille attend l'ancien président Donald Trump. Son procès en destitution au Sénat commencera la seconde semaine de février. Ce procès convoqué par les démocrates majoritaires à la Chambre haute le rendrait inéligible à de prochaines élections. Donald Trump qui avait déjà connu ce type de procédure fin 2019, la majorité républicaine l'avait alors acquitté. Et l'actuelle hôte de la Maison-Blanche, interpellée par plusieurs patriarches des églises orientales du Proche-Orient, dans une lettre signée entre autres par les patriarches d'Antioche des Syriens, des Grecs Melkites ou encore le patriarche syro-orthodoxe, il réclame à Joe Biden la levée au plus vite des sanctions économiques en Syrie, considérées comme une punition collective injustifiable pour la population. En Grèce, après les étudiants, manifestation de journalistes contre le gouvernement, ce dernier a annoncé un nouveau plan national de gestion des manifestations, un plan qui prévoit des places précises pour les journalistes. La profession dénonce un coup porté à l'information. Explication à Athènes, Alexia Kefalas.
Après les étudiants protestant contre la présence policière non armée dans les universités, ce sont les journalistes qui aujourd'hui sont en colère contre le gouvernement grec. En cause, le projet de loi du ministre de la Protection civile donnant à la police le droit de, je cite, « déterminer des places » précise pour les journalistes couvrant les manifestations. Alors, cela revient concrètement à limiter les déplacements de la presse dans les cortèges. Forcément, les syndicats de journalistes, de médias grecs, de photographes et de correspondants de la presse étrangère en Grèce ont protesté. Ils sont vent debout contre ce projet qui porte un coup grave à, je cite, « l'information des citoyens ». Un fondement de la démocratie. Face à ce tollé, le ministre grec a précisé que cette disposition ne serait appliquée que lorsque les journalistes le réclament en cas d'incident grave. Il faut savoir que les manifestations en Grèce sont parmi les plus violentes de l'Union européenne et le gouvernement conservateur au pouvoir avait promis une réforme. Elle semble mal commencée. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Les sites religieux dans le monde bientôt protégés par un plan spécial de l'ONU. Une résolution en ce sens a été adoptée hier par l'institution intitulée « Promouvoir la culture de la paix pour la protection des sites religieux ». L'ONU qui rappelle que 20% des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ont un caractère religieux. Demain dimanche aura lieu le troisième dimanche de la parole de Dieu depuis son instauration par le pape en 2019. Une messe du Saint-Père aura lieu à 10h en la basilique Saint-Pierre de Rome. À suivre bien sûr avec commentaires en français sur vaticannews.va. En quelques points, la Congrégation pour le culte divin rappelait en décembre dernier toute l'importance de la Sainte Écriture pour la vie de croyants à partir de sa résonance dans la liturgie, estimait le cardinal Sarah. Jour d'élection présidentielle particulier demain au Portugal. Confiné depuis une semaine, le pays est premier mondial en nombre de contagions par rapport à sa population, de nouvelles contagions, pardon. Un état sanitaire qui pourrait donc faire bondir l'abstention électorale, même si l'issue du scrutin ne laisse que peu de place au doute. Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, fait en effet partie du club très privé des chefs d'État très populaires. Il devrait donc demain l'emporter pour un second et ultime mandat. Quelle est la recette du président portugais pour rester populaire et dont nombre de chefs d'État européens aimeraient s'inspirer? L'historien Yves Léonard, spécialiste du Portugal contemporain à Sciences Po, nous en dit plus.
C'est une recette qui s'est en fait construite au fil des années. C'est un long parcours à la fois politique, universitaire et médiatique. Politique parce qu'il a, dès son plus jeune âge, occupé des fonctions au moment de la, après la révolution des œillères, 1974-75. Il a été impliqué dans la rédaction de la Constitution, il a été élu. La deuxième dimension, c'est celle d'un homme des médias. Il s'est également beaucoup impliqué dans le renouveau des médias après la chute de la dictature. Et au fil des années, il a construit aussi une image publique à travers les médias, par l'écrit, par la radio et par la télévision. Et puis, troisième volet, je disais, cette dimension universitaire qui est son ADN, qui est sa colonne vertébrale, puisque c'est un professeur émérite et de grand renom en matière de droit et de sciences politiques. Et au Portugal, comme dans beaucoup de pays, ça compte.
Derrière cette popularité auprès de la population, que dire de ses soutiens politiques?
Rebelo de Sousa est le président de tous les Portugais. Il a pris son rôle dans cette dimension très, qui se veut de rassemblement, de parler au nom de tous les Portugais. Et donc d'être, comme on dit, au-dessus des partis et du jeu partisan. Par ailleurs, il a lui-même, tout particulièrement avec le Premier ministre, António Costa, des liens de quasi amicaux, de respect mutuel, qui font que cette cohabitation, si on peut dire, entre un président de centre-droite et un gouvernement de centre-gauche, c'est plutôt bien fonctionné, à tel point que aujourd'hui, pour la présidentielle, António Costa n'a pas soutenu officiellement la candidate issue des rangs du Parti Socialiste, Ana Gomes, privilégiant plutôt la reconduction de Rebelo de Sousa à la présidence de la République pour des raisons qu'ils estiment de stabilité, de cohérence, et notamment dans le cadre de cette présidence qu'exerce ce premier semestre le Portugal du Conseil de l'Union européenne.
Comment la pandémie, la façon dont elle a été gérée, a-t-elle pesé sur la popularité du président?
Alors Rebelo de Sousa, par rapport à cette crise, il a tout de suite, très tôt, dès le mois de février-mars 2020, pris la mesure, si l'on peut dire. Il s'est lui-même, d'ailleurs, et ça a été beaucoup médiatisé, auto-confiné, avant même les mesures de la seconde quinzaine du mois de mars. Il s'est auto-confiné par prudence, parce qu'il avait été au contact de personnes atteintes du Covid. Alors, dans le contexte de la campagne très compliqué, le gros souci, c'est que on voit bien qu'il va y avoir un taux d'abstention très élevé. Dans ce contexte de confinement, de contraintes pesant sur les déplacements et tout, il est bien évident que beaucoup de Portugais et de Portugaises ne se rendront pas aux urnes ce dimanche.
Doit-on craindre que cette abstention, finalement, profite au nouveau parti de droite populiste, Chega, mené par André Ventura?
Chega et Ventura ont beaucoup utilisé la vague anti-système. Alors il a fait une campagne tout en visibilité et avançant résolument pour créer une forme de surprise, entre guillemets, mais surtout s'inscrire pour la suite, peser sur les événements à suivre, et notamment sur la recomposition de la droite portugaise. Il faut voir que dans les débats télévisés qui ont été organisés, le débat qui a eu le plus d'audience, ça a été le débat entre le président sortant, Rebelo de Sousa, et André Ventura de Chega. C'est un indicateur parmi d'autres.
Interrogé par Marine Henriot, Yves Léonard, historien du Portugal contemporain à Sciences Po, était ce matin l'invité de Radio Vatican.
Ainsi se referme cette édition. Grand merci de l'avoir suivi, d'être fidèle à l'information du Saint-Siège sur le pape, l'Église et le monde que vous pouvez retrouver sur vaticannews.va. Excellente journée.